Bonjour, c'est Laetitia Casta, vous écoutez Pop Pop Pop. Allez, Pop Pop Pop, c'est parti!
Popienne, popopien et tous les autres aussi, bonjour. Il se trouve que nous sommes le 7 janvier 2020 et que nous célébrons, si je puis dire, le 5e anniversaire du massacre de Charlie Hebdo et de cet incroyable sursaut du pays qui descendit majoritairement dans les rues, comme pour serrer les rangs, et se réchauffer les uns les autres et manifester cet attachement que nous avons presque tous au droit à la satire, au blasphème et à la caricature. 5 ans plus tard, les raisons de se consoler sont certes peu nombreuses, mais l'une d'entre elles pourrait être l'existence des artistes en général et des dessinateurs en particulier, et très particulièrement de Manu Larcenet qui, au miracle, est assis en face de nous au moment où je vous parle. Alors attention, Manu Larcenet est lui-même un garçon complexe, à la fois fragile et costaud, à la fois souple et dur, comme nous tous, et je dirais un peu plus que nous tous, je dirais même beaucoup plus que nous tous. Il fait d'ailleurs de cette personnalité double un des axes de son œuvre, et tout particulièrement dans son petit dernier, Thérapie de groupe, qui est exactement ce dont nous avons tous besoin, surtout aujourd'hui, en ce 7 janvier 2020. Oui, parlons de dessins qui font rire, mais pas que, oh non, pas que, avec un des princes du genre, Manu Larcenet, et l'invité de Pop Pop Pop.
France Inter. Pop Pop Pop. Antoine de Paune.
Bonjour Manu Larcenet.
Bonjour, mais c'est trop sympa.
Ah ben non, ça n'est
si
pas
sûr.
Assez. Ah non, c'est même très loin de ce qu'on pense vraiment, croyez-moi.
C'est vrai ? Alors allez-y, oui. Allez-y, continuez.
Non, pas trop. Bon, J-3 avant la sortie de votre nouvelle BD Thérapie de groupe, signe que l'année 2020 commence bien, enfin mieux qu'on ne l'imaginait. À mes côtés, celle qui raffole des thérapies de groupe.
Mais non, je savais que celle-là, elle allait pas passer, hein. Elle était difficile en même temps. Bonjour,
bonjour
Antoine.
Bonjour Charline.
Manu. Bonjour madame.
Au menu également de Pop Pop Pop, un détour par le supermarché de la pop culture pour savoir ce qu'il faudra mettre dans son caddie en 2020. On verra ça tout à l'heure avec Ronan Crowe. Mais avant ça, Manu Larcenet, vous le savez, ici, il existe une question. Une question, en ces temps d'épidémie de gastro-entérite, qui inquiète encore plus que ça. Ça fait peur, hein? Et cette question, c'est... Manu Larcenet, pour vous, c'est quoi la pop culture? Alors, pour être totalement honnête, j'ai eu des réponses manutives, larcenesques, bédétisantes et même bubulesques. Et parmi mes préférées, il y a celle de Manu Larcenet, mais le Manu Larcenet de 2018. Écoutez-le.
Le seul mot qui me vient à l'esprit, c'est Warhol. Je suis un peu obsédé en fait par l'histoire de l'art, et c'est ce qui se rapproche le plus pour moi de la pop culture, c'est ce qu'a fait Warhol.
Warhol, donc, comme dit José Garcia, et pour le Manu Larcenet de 2020, c'est quoi?
Je sais pas si c'était intelligent ou con. Je réfléchis.
Vous jugez.
Ça me va encore.
Ah, vous avez pas besoin.
C'est très très
ça,
large.
Ouais.
Ce que vous me demandez est très très large. Mmh. On est d'accord.
Ouais.
Parce que par exemple, regardez. Par exemple, on prend les Clash, The Clash. Mmh. Au hasard.
Le t-shirt que vous portez aujourd'hui,
voilà.
Par exemple.
Est-ce que c'est de la pop culture?
Est-ce que ça relève de la pop culture?
Moi, j'aurais tendance à dire oui, puisque c'est quand même pas une élite qui a porté ce groupe-là. C'est plutôt le peuple.
Ouais.
Hein? Vous êtes d'accord avec moi?
Oui.
Donc, on peut dire que c'est de la pop culture.
Mm-hmm.
En même temps, quand on dit, par exemple, que Claude François, c'est de la pop culture, le rapport entre les deux me paraît difficile.
Ah, ça ouvre un débat.
On peut ouvrir un débat maintenant, si vous le voulez.
C'est-à-dire que ça va nous occuper une grande partie de l'émission, hélas. Et je voudrais... Je comprends très bien ce que vous voulez dire. C'est-à-dire que le socle est large. Entre le populaire et ce qui vient...
Et le populisme.
Voilà, d'accord. Ok. Oh là, cette émission part sur des rails. Décidément très tendue.
Écoutez, j'arrive à Paris, je fais de la politique comme tout le monde.
Très bien, Manu. Alors, la pop, la culture et la pop culture, on va en parler dans la suite de Pop Pop Pop, juste après Stay High. C'est un morceau signé de la chanteuse Brittany Howard.
Like doing it again. that you come from, yeah.
Il reste en haut cet extrait de l'album de Brittany Howard, Jamie. Et j'aime cet album, Jamie.
Pardon ? Bon.
Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture
c'était
de France.
C'était la chanteuse de l'album Shakes.
Oui. Ouais.
Et puis Stay High, ça ne veut pas dire rester haut.
Enfin, non, ça veut dire quoi, Stay High ?
Le maréchal des logis Barousse.
Ok, Manu Larsenet, vous écoutez Pop 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 en ce moment. Oui, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Et nous sommes aujourd'hui... avec un invité qui a eu envie de dessiner en tombant sur lui à la télé.
Première leçon, pour faire une caricature, il faut faire tout de suite ce qu'il y a de plus grand chez la personne. Oui. Tu vois, si c'est un nez, si c'est une bouche. Alors justement, on va faire une bouche, là.
Cabu. Cabu, c'était dans Récré à deux.
Ça
bah évidemment, on retrouve tout ici. Cabu, à qui vous avez dédié le tome 2 du rapport Brodeck, si je ne m'abuse.
Ah, oh, ça me fait quelque chose que tu me le fasses écouter maintenant. Là.
Bah oui.
Surtout aujourd'hui, en plus. Mm-hmm. Cabu, j'étais un enfant très très introverti, dépressif, malade, tout le monde s'en foutait. Et un jour je vois à la télé, donc en regardant les émissions pour enfants, cette main qu'il avait, Cabu, muni d'un marqueur. Et puis je le vois faire ses traits avec une sûreté incroyable, comme ça sur le papier. Puis je comprends pas même ce qu'il fait. Et au bout de 2 minutes, se forme un personnage avec une scène, avec des mains, avec... Et ce type qui avait l'air d'être le plus timide du monde, celui qui avait visiblement un problème pour parler avec les autres animateurs, qui n'était pas visiblement un marrant, un joyeux de rire, arrivait à faire passer une émotion à travers le dessin. Ça a été mon maître, ça a été le type qui, le soir même, j'ai pris une petite table de camping dans ma chambre et j'ai commencé à dessiner. Alors très mal, bien entendu, c'était pas une vocation chez moi. Mais je voyais ce type s'exprimer et inconsciemment, je m'étais dit, il y a un moyen donc autre que la parole de s'exprimer. Et c'est Cabu qui me l'a montré, et tout simplement dans une émission pour enfants où tout le monde s'en moquait de cette émission. Mmh. Et ben, il y avait Cabu dedans. Au moins, à moi, ça a servi. Et quand je l'ai rencontré, il m'a dit que j'étais pas le seul. Ça m'a fait plaisir.
Cabu, à qui l'on pense particulièrement, évidemment, en 7 janvier. Est-ce qu'il y a du Cabu dans l'arsenal? Alors, réponse avec votre pop portrait, Manu. Alors, bien sûr, votre pop portrait, c'est votre portrait, mais.
À base de pop.
Et il est signé Charline Rare.
Aujourd'hui, nous recevons un invité de type contrasté. D'abord parce qu'il ne cache pas telle une météo qu'il l'est, contrasté qu'il est lui-même une succession d'orages et d'éclaircies. Contrasté aussi puisque déjà lors de sa dernière visite, nous avions souligné cette contradiction entre son ultra-productivité de qualité, des débuts chez Fluide Glacial au rapport de Brodeck, en passant par les cosmonautes du futur, le retour à la Terre, le combat ordinaire, son Valérian, l'extraordinaire Blast, sans oublier de fonder une maison d'édition. Extrême productivité donc, et ce malgré cette affirmation qui voudrait que notre invité passe beaucoup de temps à bailler au Corneille depuis sa résidence du Beaujolais. Ce qui aussi est une forme de contraste pour quiconque aime le vin, mais surtout pas nouveau. Enfin, bien sûr, à consommer avec modération, etc., etc. Contraste enfin, puisqu'aujourd'hui, sa thérapie de groupe très inspirée et inspirante traite justement du manque d'inspiration. Aujourd'hui donc, un invité qui, en une image, peut vous faire varier l'ombre et la lumière avec énormément de facilité.
C'est gentil, merci.
Manu Larsenet, vous êtes une terre de contraste.
Oui.
Oui.
Non, mais comment dire, on est tous terre de contraste.
J'espère.
Vous, il y a des
plus ou moins marqués.
Plus ou moins marqués. Ouais. Et surtout quand on fait une œuvre, c'est souvent on a tendance à rester dans ce qui soit a marché, soit nous a fait plaisir. Soit... Et moi, j'aime pas ce confort-là. J'aime pas le confort en fait. Donc du coup, à part l'argent, bien sûr, que les choses soient claires. Le confort en dessin, c'est sclérosant. Donc il faut toujours faire des choses différentes, d'où le contraste. Mais c'est aussi parce que on a tous des moments plus difficiles ou plus simples que d'autres. Et puis chez moi, c'est comme c'est un peu pathologique. Oh, j'ai trouvé le mot pathologique. j'ai décidé sur la fin de me servir de cette pathologie de bipolarité pour quand je vais mal raconter des choses noires et quand je vais plutôt mieux essayer de rigoler un peu. Mais de toute façon, c'est jamais de l'humour pour l'humour quoi. Il y a toujours.
On va y revenir dans quelques instants.
C'est pour gentil,
l'instant,
merci.
Manu, est-ce que vous arrivez à lire la bulle à côté de ma tête?
Fort. Devant les gens?
Bah oui, on est à la radio.
Manu Larsenet, voulez-vous aller au cœur du réacteur de la pop culture? À mort que je veux.
C'est une question, hein.
Fukushima.
Très bien. Alors passons à votre pop list. Nous vous avons demandé de choisir un film, une musique, une série et une chanson.
Un livre
aussi pour le livre. Ah ben justement, merci Charline. Vous avez choisi Voyage au bout de la nuit de Céline, publié en 1932. Alors Charline, les Voyages au bout de la nuit, ça vous connaît, m'a-t-on dit.
Oh,
c'est donc
réputation.
À une experte que je m'adresse. Résumez-nous ce phare de la littérature moderne, s'il vous plaît.
Alors je précise que mes voyages n'ont rien à voir avec cela. Les aventures de Ferdinand Bardamu et ses illusions perdues entre la guerre, le colonialisme, le capitalisme et sa vie de médecin de banlieue.
Merci Charline. Manu Larsenet, auriez-vous l'amabilité de nous en lire quelques lignes, s'il vous plaît?
Alors, avec toute la modestie qui fait que je ne suis pas un acteur, donc je vais essayer vous lire quelques... Je vais essayer de vous lire quelques lignes, sans moquerie si possible. Le maréchal des logis... Je peux avoir... Est-ce que je peux avoir deux
allez-y,
minutes,
allez-y,
s'il
allez-y,
vous plaît,
allez-y.
Monsieur de Caunes?
On s'était.
En ce jour, le maréchal des logis Barousse vient d'être tué, mon colonel, qu'il dit tout d'un trait. Et alors? Il a été tué en allant chercher le fourgon à pain sur la route des Étrapes, mon colonel. Et alors? Il a été éclaté par un obus. Mais alors, nom de Dieu? Et voilà, mon colonel. C'est tout? Oui, c'est tout, mon colonel. Et le pain? Demanda le colonel. Ce fut la fin de ce dialogue, parce que je me souviens bien qu'il a eu le temps de dire tout juste « et le pain », et puis suit tout. Après ça, rien que du feu, et puis du bruit avec.
Court extrait du Voyage au bout de la nuit de Louis Ferdinand.
Pas un acteur, quand même. Céline.
Le texte que vous venez de me faire lire est un chef-d'œuvre. Et puis, ce fut tout. Après ça, rien que du feu. Et puis du bruit avec. Il n'y a pas un adjectif, il n'y a pas le feu dévorant de ceci.
Ouais.
Moi, c'est ce qui m'a toujours bluffé chez lui. C'est que c'est à l'état pur, c'est le mot à l'état pur.
L'économie.
Ouais, y a pas, quand il dit quelque chose, il n'y a pas besoin de qu'il précise, reprécise, reprécise. Il dit la chose une fois. Et ça, c'est un truc qu'on ne peut pas... C'est un truc qui se travaille, c'est pas un truc qu'on a soi-même. On a toujours envie de rajouter plein de belles choses. Et lui, on voit, ses manuscrits sont raturés jusqu'à en enlever, jusqu'à obtenir l'essence du truc.
Comme vous le faites, vous, avec le dessin?
Comme j'essaye de le faire, comme c'est plus dur pour moi.
Dans quelles circonstances avez-vous découvert le Voyage au bout de la nuit, Manu Larsenet?
C'était, j'avais une trentaine d'années. J'étais je pensais être très très à gauche à l'époque. Et donc, comme tous les gens d'extrême gauche de ma période, Manon Negra, Berruyer Noir, tous ces gens de cette période-là, pour resituer pour les gens qui sont nés après 98. j'aime bien, j'ai eu mon premier hockey boomer ce matin, j'étais content, ça m'a fait plaisir. Vous m'avez demandé quoi?
Dans quelles circonstances vous avez découvert le Voyage au bout de la nuit?
Et donc je refusais catégoriquement de lire Céline à cause de, évidemment de Bagatelle pour un massacre et puis de ce qu'il avait raconté.
Son pamphlet antisémite.
Voilà, tout ce qui était... Et un jour, je me suis dit quand même... je sais plus quel écrivain est marqué, il faut connaître son ennemi. Donc je me suis dit, bah, connaissons, alors lisons-le. Et de ma vie entière, j'ai jamais eu un tel choc. C'est-à-dire que j'ai lu, sur, ça a duré longtemps, presque sur un mois et demi, je crois. Parce que je comprenais pas tout, c'est dur à lire. On peut pas, ça se feuillette pas comme un roman, quoi. C'est, il faut y revenir, il faut plonger dedans. Et c'était une œuvre. Voilà, c'était une œuvre d'art. Là, on n'était plus dans le bouquin pour détente ou le bouquin pour les vacances ou je sais quoi, ou même un bon bouquin. C'est juste une œuvre. Et je dois avouer qu'après ça, j'ai lu très très peu de romans. J'ai plus trouvé l'attrait que j'avais avant pour la lecture. C'est tellement précis, c'est un travail d'une vie presque. C'est d'une précision chirurgicale quand il dit un truc. Et puis il y a cette chose qui faisait écho chez le gamin, enfin le jeune dépressif que j'étais, c'est la noirceur. Il décrit la noirceur. Il y a un moment sur deux ou trois pages, il décrit un champ labouré. Avec les vers qui grouillent, avec et à la tombée de la nuit, la couleur et vous y êtes quoi, t'as les pieds dans la boue, c'est dégueulasse. Pourtant les champs c'est beau, mais lui quand il en parle, ça devient quelque chose d'ignoble. Et cet imaginaire-là faisait écho en moi, voilà.
Bien, le voyage au bout de la nuit, le livre qui a emballé.
C'était un peu long.
Manu Larsen. Non, parce que passionnant.
Un peu con peut-être alors.
Non,
merci.
Parce que passionnant.
C'est gentil.
Vol au-dessus d'un nid de coucou, c'est le film que vous avez choisi pour votre pop list One Flew Over the Cuckoo's Nest en VO, film réalisé par Milos Forman et sorti en 75. Charline, vous qui avez fait plus que voler au-dessus d'un nid de coucou, puisque vous y avez même séjourné, rappelez-nous de quoi il s'agit.
Afin d'échapper à la prison, Mac Murphy se fait interner et découvre les joies de l'hôpital psychiatrique quand il est géré par une infirmière supra-peau de vache, pour ne pas dire vaguement sociopathe.
Il a 38 ans. Il a été interné dans un hôpital psychiatrique. Pour les médecins, il est fou.
Nom de Dieu, à vous entendre, vous en avez marre. Tout le monde rouspète. Vous dites tous assez de cette boîte et tout, et vous n'avez pas le courage de foutre le camp. Mais c'est pas vrai, ça. Mais qu'est-ce que vous imaginez? Vous êtes dingue ou quoi? Eh bien, non.
Il s'imposa à un groupe d'hommes brimés, bridés, brisés, et leur redonna le goût de vivre.
Merci, Mac. Merci. Et t'oublierai jamais.
Jack Nicholson incarne Mac Murphy. Lui est fou. Alors, que dire de nous?
Et on a reconnu donc la voix de Jack Nicholson qui joue en français.
D'une manière extraordinaire.
C'est Jean-Jacques Nicholson.
Extraordinaire.
Ça m'a fait mal. Ça me fait mal dans ma tête là de l'entendre en français. Hein.
Vous êtes plutôt Mac Murphy ou l'infirmière peau de vache, comme disait Charline?
Non, moi je suis les deux. Peux être les deux, mais je suis plutôt évidemment du côté de Mac Murphy. Moi, je suis toujours du côté du héros, je suis pas bien compliqué. Mais ça aussi, c'est un choc. J'ai vu ça jeune. C'est un film qui est... Je peux le revoir 50 fois, Et puis moi, dans ma vie, ça m'a servi, quoi. C'est des choses qui servent de voir Vol au-dessus d'un nid de coucou, je vous le conseille. Même si la bande-annonce que vous venez d'entendre n'est pas forcément la plus... celle qui donne le plus envie, c'est un film somptueux.
Mais la guimbarde, quoi.
Avec une performance extraordinaire de Nicholson.
Une qualité d'image extraordinaire.
Bien. Passons à la série. Pour la série, vous avez choisi The Office, la série anglaise créée par Ricky Gervais et Stephen Merchant et diffusée entre 2001 et 2003 sur la BBC 2. Charline, rappelez-nous la meilleure vanne de Ricky Gervais il y a 48 heures au Golden Globes avant de nous resituer The Office.
Oh bah, ma préférée, c'est celle sur DiCaprio. Allez-y. Où il était en train de dire que tous les films duraient beaucoup trop longtemps en ce moment. Il parlait de The Irishman et il a dit pour preuve aussi Once Upon a Time. Dure beaucoup trop longtemps. La preuve, Leonardo DiCaprio est allé à l'avant-première et à la fin de la séance, son date était déjà trop vieille pour lui. Un résumé de The Office, peut-être.
Oui, peut-être.
David Brent dirige une petite entreprise de papeterie. David Brent pense qu'il est un excellent patron. En réalité, David Brent est ce qu'on peut communément appeler un gros con.
I try and laugh several times a day just because it makes you feel good. So let's try that. Hey, just come on, trust me, you'll feel.
On aura reconnu Ricky Gervais, bien sûr, hein, qui joue parfaitement
qui
en anglais, étonnamment,
ouais.
Et qui rit devant ses employés médusés. Est-ce que vous êtes prêt à rejoindre le fan club officiel de Ricky Gervais, dont Charline et moi sommes les présidents et coprésidentes?
Si vous me faites une petite réception avec un bon repas, je viens sans aucun problème.
Ah, faut un repas chaud en plus.
Ah d'accord.
Oui, d'accord.
Non, bah, je viendrai avec mon McDo, c'est pas grave, c'est pas
non,
un problème.
Mais je cuisine, y a pas de souci.
C'est gentil de votre part, merci.
Pourquoi est-ce qu'il vous fait rire, Ricky Gervais?
Mais Ricky, alors, ouais. C'est The Office. Ricky Gervais me fait rire parce que c'est un esprit supérieur, quand même, dans l'humour. Et puis aussi, là, j'aime bien parce qu'il est comme il est athée, il met toujours des petites piques contre les croyants, c'est assez drôle. Mais non, The Office, c'est j'ai jamais eu aussi mal pour un homme que pour le David Brent de The Office. Il fait tout ce qu'il faut pas faire. C'est-à-dire que quand je regarde ça, je suis mortifié pour lui à chaque fois. Je suis recroquevillé sur mon canapé, je me dis non, dis pas ça. Oh putain, et j'ai mal pour lui. C'est tellement bien écrit et bien joué que j'ai mal pour lui.
Et vous aimez bien avoir mal, on va en reparler dans quelques instants.
Ainsi que...
Charlie. Cette pop list, on la clôt avec un peu de musique et de la musique douce, limite New Age, parce que c'est votre chanson culte, et c'est celle-ci. Ah, c'est ce qu'on appelle des cadences infernales, hein. Je pense qu'on n'est pas loin de 180 BPM. Linoleum, c'est un morceau du groupe punk rock de Los Angeles, NOFX.
On dit NoFX.
NoFX, pardon.
Oh non, bah, je veux pas te donner des leçons.
NoFX. C'est un groupe qui a été qualifié par la presse alternative du groupe le plus drôle du rock'n'roll.
C'est de la connerie. Ils sont pas drôles, ils sont plutôt beaufs. Par contre, leur musique est très très intéressante. On ne croit pas comme ça parce que quand on n'écoute que ça, c'est. Mais quand on écoute les albums, les morceaux sont construits. Déjà, c'est joué très rapidement et c'est construit au millipoil. C'est-à-dire que. Ça prendra des heures à le dire. Mais tout le monde les résume à un groupe de rigolos. Moi, je trouve qu'ils sont pas très drôles, au contraire. Je trouve que c'est plutôt un humour de beauf qui me plaît pas. Par contre, les voir faire de la musique et puis.
Vous les avez vus?
Ouais, j'ai vu plusieurs fois. Ouais. Mais dans ces derniers temps, donc c'était un peu moins. Voilà, j'ai pas pu les voir en 83. Mais quand c'est arrivé en France dans les skateparks, ce truc, ça a été pour tous, parce que c'est mélodique et c'est ultra rapide. C'est un punk qu'on n'avait jamais entendu. Enfin, moi, je connaissais pas.
Si ma mémoire est bonne, aujourd'hui, vous portez un t-shirt des Clash. La dernière fois, quand vous êtes venu, il me semble que vous aviez un t-shirt des Red Hot Chili Peppers. C'est possible?
C'est bien possible. Ouais. Mais
donc, aujourd'hui, on reste quand même sur une veine musicale assez.
Oh, les Red Hot, c'est moins.
Oui, bien sûr, mais.
C'est nerveuse.
Mais moi, j'aime le punk. Je n'écoute quasiment que du punk. J'ai toujours un peu honte de le dire parce que c'est vrai que c'est con de se cantonner à un truc, mais il y a d'autres choses que j'aime. Mais le punk rock est assez large pour en écouter un nouveau tous les jours.
Vous êtes heureux du retour de John Frusciante dans les Red Hot Chili Peppers?
Je suis. Vous savez pas comment on a sauté de joie, ma femme et moi. de joie. Quand on a su que Frusciante revenait. Mais j'avais même pas réalisé que ça faisait 10 ans.
Il était parti.
Comme quoi l'autre était tellement mauvais.
Alors je résume, Céline, Louis Ferdinand Céline, hein, pas les pompes, vole au-dessus d'un nid de coucou, The Office et NOFX. Donc je mets tout ça dans mon mixeur de pop culture et ça donne ça.
I try and laugh several times a day. Just because it makes you feel good.
Mais c'est pas vrai ça, mais qu'est-ce que vous imaginez? Vous êtes dingue ou quoi? Eh bien non.
Let's try that.
Et puis c'est tout. Après ça, rien que du feu et puis du bruit avec.
Lui est fou. Alors, que dire de nous?
Oh yeah. Voilà ce qui traîne dans la tête de Manu Larcenet.
C'est affreux. Le mélange Molotov et Coucou avec Ricky Gervais. C'est rude.
On y est et on est bien. Le punk, la culture et la punk culture, on va en parler dans la suite de Pop, juste après. Tiens, bah, ici d'ici, pour se faire plaisir, un petit You Shook Me All Night Long. We'll be right back.
ACDC, You Shook Me All Night Long. Oui, toute la nuit, tu m'as secoué. C'est un morceau qui date de...
Qui parlait
de l'époque. Manu Payet dans le 6-9 et Ciao sont les premiers résultats qui tombent quand je tape Manu sur Google. Mais aujourd'hui, nous sommes avec Manu, mais Manu Larsenet, venu nous parler de Thérapie de groupe, son nouvel album chez Dargaud. Alors comme dans toute thérapie de groupe, vous allez commencer par vous présenter, Manu, nous vous écoutons.
Bonjour, je suis Manu Larsenet et je suis sobre depuis hier soir.
Bonjour Manu.
Bonjour Manu. Merci, c'est gentil.
Et bienvenue Manu. Thérapie de groupe, votre nouvelle BD parle de ça. Du vide. De la panne dans la création, de la panne d'inspiration. Ça a été ça votre inspiration?
C'est un peu plus pointu que juste l'arrêt de la création. C'est vous me posez des questions compliquées, monsieur De Caunes. C'est parfois l'arrêt de la création, il se fait parce qu'on n'a plus envie. Et on le sait pas forcément soi-même qu'on n'a plus envie. Il faut le découvrir. Donc c'est un peu le parcours de. C'est pas autobiographique complètement. Hein. Faut pas déconner.
Hein, c'est un gros nez comme ça.
J'ai plein d'autres blagues à faire, mais je ne peux pas les faire.
N'hésitez pas. Hein.
Non, je ne peux pas. Madame, ma femme m'écoute. C'est impossible. Mes enfants aussi m'écoutent. C'est la relation à la création. Donc il se trouve que à ce moment-là, quand j'ai commencé, j'avais du mal. Mm-hmm. Et puis aussi. Le rapport entre ce qu'on a dans sa tête et ce qu'on met sur son papier. Et je parle du papier à dessin et non pas un autre papier.
Alors Manu Larsenet, d'où vous viennent toutes ces idées? Normalement, vous devez me répondre. Il faut savoir garder l'esprit ouvert, observer sans concession ce qui nous entoure, la comédie humaine. En vrai, combien de fois vous avez dû répondre à cette question et combien de fois vous êtes retrouvé à pas savoir quoi répondre à cette question?
Je ne peux pas vous dire combien de fois, mais un nombre de fois certain. Mais en même temps, c'est une question compréhensible. Moi-même, je l'aurais sans doute posé à mes idoles quand j'étais jeune, si j'avais pu. Mais c'est vrai que c'est passer un temps, une fois qu'on a bossé longtemps, parce que moi, ça fait quand même un sacré bout de temps que je bosse. La question, elle est plus d'avoir des idées, la question, c'est d'avoir des bonnes idées. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué d'avoir des idées. Jusqu'ici, ces derniers temps, j'avais eu des idées, avec deux, trois bonnes. Maintenant, j'aimerais bien n'avoir que des bonnes idées. Et pour avoir des bonnes idées, il s'agit pas d'avoir une petite épiphanie comme dans les dessins animés ou dans les films ou je sais pas. Il faut s'asseoir, tourner autour de sa table pendant des mois, rien foutre. Il faut regarder. Alors moi, je lis des bouquins d'histoire de l'art ou des trucs comme ça pour essayer de trouver à quoi me raccrocher. Et puis un jour, d'une manière absolument imprévue, quelque chose vous happe, que ce soit une image, un mot, un concept, un machin. Et là-dessus, vous pouvez commencer à travailler. Mais des fois, ça vient pas.
La fameuse
faut attendre.
La fameuse muse dont il est tellement question.
La fameuse muse, on est parlé dedans.
Alors,
ouais.
Thérapie de groupe met en scène Jean-Eudes de Cajot, alias... De Cajot-Goujon, pardon. Excusez-moi, j'avais coupé un bout de... alias Manu Larsenet, star international de la BD, le Donald Trump du 9e art, qui a connu gloire et pognon, mais là, il patauge en pleine finitude. Après avoir pondu comme un métronome un chef-d'œuvre tous les 2-3 mois, c'est le vide. Plus une seule idée, même minuscule. Alors arrimé à sa table de dessin, hagard, il contemple le trou noir sur la page blanche. Comment est venue l'idée de ne pas en avoir? Comment ça s'est présenté, ça, à vous?
Il fallait que je travaille. Parce que c'est nécessaire. Je ne peux pas rester à rien foutre. C'est pas possible. Je ne sais pas me reposer. Je sais pas. J'ai pas de hobby. J'ai pas de...
Pourtant, vous viviez dans le Beaujolais.
Je pourrais avoir un hobby là-bas, mais justement, c'est un des hobbies que je ne cultive pas.
Ça s'appelle pas un hobby.
Je suis rétif à l'alcool, donc
je suis
tranquille, moi, personnellement. Je préfère autre chose. Je sais plus du coup ce que vous m'avez demandé. Je perds la tête. Non, c'est la cinquantaine, ça.
D'où est venue, comment est venue cette idée de ne pas en avoir?
Eh ben, il fallait travailler. Je me suis dit, sur quoi je vais travailler? Est-ce que je trouve un thème? Est-ce que je trouve une histoire? Est-ce que je trouve un récit? Est-ce que j'ai envie de parler? Est-ce que j'ai envie de dessiner quelqu'un qui serait seul pendant un? Est-ce que j'ai envie de dessiner de l'humour? Et je me suis dit, j'ai jamais fait de l'humour depuis Flux Glacial tout seul. J'en ai fait avec Jean-Yves Ferry pour Le Retour à la Terre, ça. Ce sont des albums que j'aime vraiment beaucoup, mais c'est pas moi qui les ai écrits. Et je me suis dit, peut-être si tu bouges un peu, tu peux peut-être faire un truc d'humour avant de mourir.
Et puis vous sortez d'une période sombre avec les blasts, les rapports de Brodeck. Ouais.
J'avais pas tellement envie de continuer ça. Ouais. Pour l'instant, j'avais l'impression que j'allais refaire la même chose, si vous voulez, si je continuais dans la foulée. Donc, je me suis dit, je vais revenir à mes gros nez, mais cette fois, au lieu d'essayer de faire un récit d'aventure, de pirate ou j'en sais que dalle, je vais juste raconter ce qui m'arrive en essayant d'avoir un petit peu de distance. Et ça me permettra peut-être à moi d'ailleurs de trouver une idée. Et effectivement, j'ai eu une idée de narration, qui est une narration chaotique. C'est-à-dire, il n'y a pas de récit, il y a un fil directeur, ça se suit pas. C'est exactement comme ma pensée. C'est chaotique. Ça a un sens finalement, au bout du compte, mais c'est très chaotique.
Une fois rassemblé, ouais. Voilà, c'est très ça. Étonnant. C'est-à-dire que Thérapie de groupe, c'est une alternance de scènes qui, donc, représentent votre alias en pleine ébullition. Des pages revues de presse sur lesquelles vous faites les gros titres et des scénettes aussi. Hors intrigue, intitulée Jean-Jacques et Bruno, l'aventure au bureau, avec deux types qui discutent de sujets relativement triviaux, mais avec des punchlines toujours très trash. Quelle a été l'inspiration de ces conversations d'open space? Ils ne sont pas sans rappeler certaines ambiances qu'on peut croiser en ce moment, cette espèce de truc de conversation triviale et d'un seul coup, le truc horrible qui vient...
C'était Lewis, les Trondheim qui avait fait ça en tout premier, qui avait fait ce genre de truc, et c'est un peu en hommage à Lewis que j'ai fait ça. Après, il y en a d'autres, il y a Fab Caro qui fait ça très bien, il y a... Oh, je sais plus, il y en a quelques-uns qui font ça très bien. Moi,
Ricky Gervais.
Vous avez raison. Ouais. Mais lui, il a un truc, il aime quand même les récits. Vous voyez ce que je veux dire? Il aime qu'on aille à un point A, un point B avec plein de vannes. Là, moi, je vais même pas d'un point A à un point B. Hein.
Une phrase, c'est plié.
Voilà. Ouais. Donc, je suis paumé.
Vous convoquez plein de monde dans cet album de thérapie. Il y a Nietzsche, il y a Léonard de Vinci, il y a Paul Cézanne.
Il y a Cézanne, ouais.
Il y a plein de monde.
Cézanne, il m'engueule, ouais.
Oui, mais vous les convoquez pour qu'ils viennent vous filer un coup de main pour sortir, pour arriver à sortir de cet état. Et c'est annoncé comme un tome 1, c'est-à-dire que c'est le début d'une longue série que vous allez revisiter l'histoire de l'art.
Ah, pas que l'histoire de l'art, il y a des philosophes, il y a des poètes. Là, dans le deuxième, il y aura une entrevue avec Baudelaire, où je vais lui annoncer que j'ai assassiné son albatros.
Être content.
Non, je pense pas. Ça prend pas le chemin, en tout cas, pour l'instant. Mais non, je vais continuer. Je vais faire 4-5 tomes comme ça, mais ça viendra si ça vient, quoi. Je veux dire, s'il y a des rencontres, ce sera bien. S'il y en a pas, je passerai sur autre chose. J'ai pas plus de. Je veux pas marcher.
Il faut que ça reste chaotique.
Voilà, que ça soit ouvert. Absolument chaotique. Ouais. Donc ça peut revenir, comme ça pourra être absent. Je sais pas.
Vous vous représentez dans cette thérapie sous des traits assez particuliers. Il faut bien le dire, plus épais que la réalité, casquette bien enfoncée, barbe collier et nez, comment dire, un poil phallique. Pourquoi tant de haine?
Vous savez qu'il y a c'est incroyable.
Qui d'autre vous l'a dit?
Une fois, j'ai fait un livre sur Freud. Mm-hmm. Et je lui ai fait ce nez là. Vous savez ce nez? Eh ben alors voilà. Et mon éditeur a demandé à un grand philosophe dont je tairai le nom, par pure charité, qui a refusé de faire la préface parce que le gros nez comme ça, il disait mais ok, Freud est juif, mais est-ce que c'est vraiment la peine de lui mettre un appendice? Et c'est un philosophe, hein. Mmh. Donc, vous voyez, je vois pas les mêmes choses. Moi, le nez, pour moi, c'est un gros nez. C'est le nez de Reiser, tu vois. J'ai appris à dessiner sur Reiser. Donc, le gros nez, il vient de Reiser directement. Alors, effectivement, il est phallique. C'est pas faux. Ouais.
Mais vous vous regardez sans la moindre complaisance, mais avec une immense autodérision. Est-ce que ça vous amuse, vous, Manu, de faire souffrir votre personnage?
Ouais.
De le voir souffrir sous vos yeux.
Bah, je souffre tout seul. Je vois pas pourquoi je ne ferais pas souffrir lui. Non, mais c'est toujours plaisant d'avoir un punching ball, quoi. Qui soit pas quelqu'un de vrai. Vite de faire des blessures. Mais c'est toujours marrant de savoir soi-même comme punching ball, quoi.
Et alors, justement, dans la catégorie autodérision dans l'autofiction, il y a toutes ces pages qui représentent des coupures de presse dans lesquelles vous faites les gros titres, de type Larsené Booba, l'ourson, je précise, le clash, Larsené prix Nobel de littérature avec un livre d'images, ou encore Larsené plagie Kurt Cobain et se rate.
Elle est bonne, celle-là.
Alors, c'est
Elle
très est bonne, drôle, non mais est-ce que ça fait de moi une mauvaise personne si toutes les pages qui parlent de tentatives de suicide ratées me font hurler de rire? Et surtout, est-ce que c'est un fantasme ou une angoisse?
Non, c'est. Alors, moi, c'est un fantasme. Ouais. Depuis tout petit, je me dis, si vraiment c'est trop dur, il reste le suicide. Mais ça n'est toujours resté qu'à l'état de fantasme. Ouais. Mais en même temps, cette idée de mourir m'a sauvé la vie. C'est incroyable, en fait, des fois, l'esprit des gens. Et les tentatives de suicide, c'est toujours drôle. Un suicide, c'est pas drôle. Une tentative de suicide, c'est hilarant.
Surtout si elle est ratée.
Surtout quand elle est ratée, oui. Quand on finit sur le sol de la salle de bain à vomir, c'est nul.
Mais toutes ces pages ont d'ailleurs un petit côté Zucker, Abraham Zucker, je trouve, dans la conception. Des hot shots, des y a-t-il un pilote? C'est-à-dire qu'il faut y revenir plusieurs fois pour voir tous les détails.
Ça me fait plaisir ce que vous me dites. J'aime pas quand on peut lire un livre de bande dessinée en 5 minutes, le refermer et avoir tout vu. J'aime bien qu'on puisse
revenir plusieurs fois.
Là, j'ai choisi de charger. Il y a beaucoup de textes, il y a beaucoup d'images, il y a beaucoup de choses différentes, il y a beaucoup de scènes différentes.
Ah, ça, c'est riche. C'est un album riche.
J'ai essayé de faire un album d'humour qui soit pas trop rapidement lisible.
Vous l'avez parfaitement réussi et j'attends moins impatiemment le tome 2 puisque vous me dites qu'il est pratiquement prêt.
Il n'est pas pratiquement prêt, mais aux deux tiers, il est fait, ouais.
D'accord. Manu, je le disais en début d'émission, c'est pas tout à fait un jour comme les autres aujourd'hui. Hein. Nous sommes donc le 7 janvier, 5 ans après la tuerie de Charlie. Est-ce que vous vous souvenez, vous, où vous étiez le 7 janvier 2015?
Oui. Ouais. Je me suis réveillé tard, car je suis un artiste. Hein. Donc je me réveille tard. Et dans un état un peu contrasté. Je vais à mon atelier et puis je vais acheter des clopes. Et je passe à travers la place du marché, j'entends tout le monde dire Charlie, Charlie, attentat, Charlie, Charlie. Mais comme ça, en prêtant l'oreille vaguement, quoi. Et je me dis, oh, bah, il y a encore un type qui a lancé un cocktail Molotov chez Charlie et tout. Et donc, je prends mon téléphone et j'envoie à Cabu, qui était le seul que je connaissais vraiment de tout Charlie. Je lui envoie un truc en disant, fais gaffe, va pas au boulot aujourd'hui, apparemment, c'est dangereux. Et puis, ce que je savais pas, c'est que, évidemment, tout le monde était déjà mort depuis belle lurette, et que quand je suis rentré à l'atelier, que j'ai allumé la radio, je posais mon cul, et ça a été une journée vide. J'ai pas beaucoup vécu de vide dans ma vie, mais celle-là a été une journée vide.
Je crois qu'on a tous partagé ce sentiment et qu'on continue à le partager 5 ans plus tard. Merci infiniment, Manu Larsenet. Thérapie de groupe, c'est chez Dargo. C'est votre nouvel album, le premier d'une longue série.
J'espère.
On verra si vous tenez vos promesses.
Merci de m'avoir invité.
Ne bougez pas, c'est pas fini.
Je vous le dis.
Ne bougez
parce
pas.
Parce que la bande dessinée, bon. Merci d'en inviter, vous, des auteurs de bande dessinée.
On en invite énormément parce qu'on adore la BD.
Et ben, vous êtes géniaux.
Puisque vous savez faire tant de choses, est-ce que vous savez faire ça? Ah, oh, il sait le faire.
Bah, facile. Ah, oui, alors là, facile.
Vous savez le faire, vous?
Certaine insolence.
Moi, non.
Alors, facile, Charline. Mais vous savez pas le faire.
Essayez quand même.
Vous êtes facile.
Bon, c'est pas grave, c'était juste pour lancer les pop news.
Alain Chabat va faire un tour du côté de chez Éric Lartigot, réalisateur de la famille Bélier. Le titre du film, c'est Hashtag Je suis là. Chabat y incarne un chef cuisinier du Pays Basque entouré de ses deux fils et de Blanche Gardin à Vélassin.
Est-ce que vous avez vu Shining, Suzanne?
Oui, le film d'amour avec Sylvia Roberts.
Non, l'inverse d'un film d'amour, Shining.
Et qu'est-ce que c'est l'inverse d'un film d'amour?
Avis aux amoureux, la ferme Hostal à pied est une bonne adresse pour rompre.
Pour rompre?
On lui répond quoi?
Et ton cul, chose du deux.
Mais putain, chaud la boulette.
Mais qu'est-ce que vous faites avec ces bateaux pour les emmener?
Je les emmène à la SPA.
À la SPA? Mais qu'est-ce qu'il a ton père?
Eh ben, il a qu'il converse sur les réseaux sociaux avec Sou, une jeune coréenne, et sur un coup de tête, il va aller la rencontrer, et ce sera le 5 février au cinéma.
Rencontre au sommet ce jeudi au Forum des Images à Paris dans le cadre d'une rétrospective consacrée au scénariste Paul Schrader, l'homme qui a écrit Taxi Driver, Raging Bull ou encore La Dernière Tentation du Christ. Le Forum des Images réunit justement Paul Schrader et le comédien William Dafoe pour présenter Light Sleeper, le premier des 6 films qu'ils ont tourné ensemble. Ce sera donc ce jeudi à 19h. La rétrospective Schrader durera, elle, jusqu'au 2 février. Tous les renseignements sur forumdesimages.fr.
Le rappeur Stormzy vient de dévoiler un inédit. Attaqué par son compatriote et confrère Wiley pour avoir osé collaborer avec Ed Sheeran, Stormzy a répondu en musique et en punchline par ce titre Disappointed. Pas de traduction littérale, hein, je vous laisse deviner. Stormzy, dans l'album Heavy in the Head, vient de sortir et qui sera sur scène à Paris au Trianon le 29 février.
France Inter. Popopop. Antoine Decaune.
Alors j'hésite entre une très mauvaise imitation de De Niro ou Stormzy.
Mais non, Stormzy, évidemment, ah bon, merci d'accord. Charline. 2020 ne serait pas 2020 sans un morceau de Johnny Montreuil, qui, je le rappelle, n'est toujours pas dans la playlist de France Inter. Séance de rattrapage ici, pourvu que ça glisse, c'est le titre et c'est aussi l'histoire de ma vie.
Ne savent pas que de ne rien faire est un art rempli de mille excitations. Je finis mes soirées très tard à rire pour un oui, pour un non. Mes tableaux ne sont pas des croûtes, j'y travaille comme un forcené. Ce n'est plus un poil, mais une poutre qui pousse à mes extrémités. Un jour je serai millionnaire, d'ailleurs je le suis déjà. Sans me maudire et sans rien faire, artiste ma foi, si ça vous va. pour moi. Loin de la vie, de ses tourments, dans la luxure et dans la joie. Faire plaisir à ses parents, voilà le drame de toute une vie. Je n'en ai cure et je m'en fous. La nuit sa mort, rendre brebis. La nuit sa mort, rendre groggy. La nuit sa mort. Rendre groggy.
Pourvu que ça glisse. Cet extrait de Narvalo Forever, c'est signé Johnny Montreuil, mon gars sûr, hein, comme disent les jeunes. Vous écoutez pop, 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 l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon...
C'est le moment du hockey boomer.
Ah non, mais ah oui, là, c'est...
On peut en relancer. Hein.
Et nous sommes toujours en compagnie de Manu Larsenet. Et vient de nous rejoindre Renan Cros.
Ben oui, bonjour, MC de Cône avec ce pull à capuche, là. Qu'est-ce que vous pouvez le voir sur franceinter.fr.
Il est très agréable parce qu'il est...
Antoine est tout en jeunesse, tout en voilà, boomer. Ce matin, bien.
Alors, Renan, vous vous chargez aujourd'hui de nous recharger l'inspiration, si je puis dire.
Et exactement, puisque votre invité n'a plus d'inspiration.
C'est fini.
Et je suis l'inspiration de cette émission, tout le monde le sait.
Une muse, une sorte de muse.
Je suis une muse, j'apparais comme ça à demi nu. Voilà, c'est parfait.
Minutes, s'il vous plaît.
Je me rhabille, évidemment. Oui, les idoles, on a besoin d'idoles en 2020. On a besoin de gens qui nous inspirent. Et moi, ce qui me fascine, c'est que les gens qui m'inspirent, c'est des gens comme Manuel Arsenet, des gens qui doutent, qui savent pas comment faire, qui savent pas comment construire leur art, qui savent pas faire. Et ben, je vous ai ramené des gens qui doutent, des gens qui sont eux aussi en pleine thérapie de groupe. Et ça tombe bien, ils s'appellent Rami Youssef, Lulu Wang et Magnus Undertal. Est-ce qu'on a envie d'aimer des gens qui s'appellent Magnus Undertal?
Oui, évidemment.
Mais oui, on a envie. D'office. Trois personnages qui vont être, à mon avis, les plus beaux personnages de 2020. Rami, on va commencer par lui et ça ressemble à ça.
I want to know who I am. I want to explore.
I don't know what I'm doing, man. I look at my parents and how strong they are and how they just know everything's going to be okay because they have God. I'm just like trying to be good.
You jerk off too much.
Qu'est-ce qu'il dit?
Alors,
masturbe beaucoup trop.
Ah merci.
You jerk off too much.
Il s'appelle Rami Youssef. Alors je prends pas beaucoup de risques puisque Rami Youssef a été sacré meilleur comédien au dernier Golden Globes de dimanche soir pour sa série Rami. C'est disponible sur Starzplay. C'est une série magnifique. Il faut absolument découvrir ça.
Vous aviez écrit votre papier avant, je le sais.
Mais ouais, c'est vrai. Ce qui est très beau avec Rami, c'est que c'est le quotidien d'un jeune musulman dans le New Jersey et qui tente de vivre et qui tente d'être à la fois en lien avec sa foi, mais aussi en lien avec la modernité. C'est quoi draguer quand on est musulman? Est-ce qu'on peut aller, ce qu'on appelle second base aux États-Unis avec une jeune musulmane? Est-ce qu'on a le droit? Est-ce qu'on n'a pas le droit? Est-ce que ça marche? Est-ce qu'on a le droit de se masturber, par exemple? C'est que des questions comme ça, avec un personnage qui doute, qui est magnifique. Rami Youssef, il vient du stand-up et il sait faire ça comme tout le monde. On parlait de Ricky Gervais tout à l'heure. Il était d'ailleurs au Golden Globes et il a répondu à Ricky Gervais en disant, on n'a pas le même humour, mais il me fait vraiment beaucoup rire. C'est vraiment quelqu'un qui s'intéresse à l'autre. C'est une série sur le doute heureux. C'est-à-dire, comment on doute d'être une bonne personne? Il le dit là, mais ce doute-là ne vous empêche pas d'exister. C'est un doute qui vous permet de construire. Et en fait, ce qui est très beau, c'est que c'est des personnages de double nationalité. Et c'est ça, aujourd'hui, les idoles de 2020. Mmh. C'est des gens qui ne savent pas très bien s'ils sont américains, s'ils sont égyptiens, musulmans, ils sont tout ça en même temps. Et ça tombe bien parce que mon deuxième conseil, ça s'appelle L'Adieu, c'est un film...
Bravo,
mais c'est bossé, attendez, c'est la
magnifique.
NASA. Ça s'appelle L'Adieu, c'est un film signé Lulu Wang, c'est magnifique, ça sort demain et ça ressemble à ça.
What's wrong, Dad? Please tell me. Manan is dying. We have to go to China.
Wedding is an excuse so everyone can see her.
He's my only cousin. Do you think I should be there?
You can't hide your emotions. If you go, Manan will find out right away.
Really? Yeah. Ça va?
Alors pareil, je prends pas beaucoup de risques puisque l'actrice de L'Adieu s'appelle Awkwafina et qu'elle a été récompensée dimanche soir du Golden Globes de la meilleure.
Écrit le papier avant.
Mais évidemment. Mais alors, c'est très très beau L'Adieu signé Lulu Wang. Alors, il faut savoir que cette jeune réalisatrice, quand elle a commencé son projet, elle l'a tweeté il y a quelques jours. Le projet s'appelait Ma famille est dingo, comment je peux gérer ça? À qui je peux en parler? Please, aidez-moi. C'est comme ça que s'appelait le film au départ.
De quoi parlait la bande-annonce exactement?
Alors, je vais vous raconter. L'histoire en fait est basée sur un vrai mensonge. C'est le film commence par ça, based on an actual lie. je parle un peu anglais, basé sur un vrai mensonge. En fait, c'est l'histoire vraie de cette Lulu Wang, qui est une jeune sino-américaine, et elle se retrouve en fait à devoir gérer un truc improbable, c'est qu'en Chine, sa grand-mère, Nai Nai, qu'elle adore...
Elle rencontre un musulman.
Non. Suivez Antoine.
Ah, oh, mais je suis...
Et cette grand-mère, en fait, elle est atteinte d'un cancer en phase terminale. Et là, vous rigolez moins. Et en fait, personne n'a le droit de lui dire. Parce qu'en Chine, la tradition veut qu'on ne dise pas aux gens qui vont mourir qu'ils vont mourir. Mais comment on fait? Comment on dit adieu à des gens à qui on a parlé de dire adieu? Alors, ce qui se passe, c'est que sa famille va organiser un faux mariage. Un faux mariage du cousin pour réunir tout le monde autour de la grand-mère sans lui dire qu'elle va mourir. Sauf que notre héroïne, elle voudrait lui dire la vérité. Et tout le monde l'empêche de venir en lui disant « Ne viens pas, toi, t'es incapable de cacher tes sentiments. » Alors elle vient quand même. Et qu'est-ce qui va se passer ensuite? Ça, je vous laisse le découvrir. C'est un film magnifique. C'est pareil, un film avec cette actrice Awkwafina qu'on adore, qui est tellement drôle, qui se retrouve à être une famille extrêmement traditionnelle, qui ne sait pas comment être une jeune fille moderne dans un milieu traditionnel et qui aime sa grand-mère. Vous allez pleurer à la fin. Manu, vous allez pleurer, j'en suis sûr. C'est magnifique. Vraiment, Awkwafina est une actrice géniale. Et j'ai terminé par un conseil, vraiment une pépite.
Le troisième,
c'est une pépite.
Vous avez annoncé trois, j'ai été très...
Mais c'est vrai, c'est bien Antoine, c'est en 2020 vous progressez. Ça s'appelle Magnus. Je sais pas où vous en êtes sur l'humour norvégien. Non,
on débute. Assez peu loin.
Assez peu loin. Et ben, c'est une série norvégienne très très drôle. Vous allez voir, je vais vous donner une sorte d'ambiance de Magnus.
Du sexe, des fouets et des tronçonneuses.
Eh ben voilà, est-ce qu'on n'est pas, c'est pas tout ce qu'on a besoin en 2020.
Je vous rappelle qu'on est à la radio.
Mais oui,
ça demande quelques précisions. Alors, en dehors du fait que cette série, c'est cela.
Magnus,
voilà,
exactement.
A été primée au Golden Globe.
Ah non, sinon parce qu'elle est norvégienne. Vous savez, les Golden Globes, ça va pas jusqu'en Norvège. Ça devrait pourtant. C'est une série norvégienne diffusée en ce moment sur Série Club et disponible sur MyCanal. C'est norvégien. Alors c'est profondément norvégien et c'est profondément drôle. C'est l'histoire du pire flic de tous les temps. D'un flic tellement nul que tout le monde le met dans un coin et le Timothée Chalamet norvégien disparaît. Mmh. Et on lui confie l'enquête. Et ce type se dit, ah non, si on confie l'enquête à moi, je suis tellement nul, il doit y avoir un truc bizarre là-dedans. Et donc, il se retrouve à mener une enquête, sauf qu'il est nul. Il est totalement nul. Alors, et surtout, il a des inventions totalement stupides. Par exemple, il a inventé une commode dans laquelle on peut se déguiser. On se déguise en commode. Ça n'a aucun intérêt, mais il est très content
de ça. On peut ranger des sous-vêtements.
Ben non, il est déguisé en commode.
Oui, voilà. C'est ça.
Alors, faut imaginer Blake Edwards rencontre les Monty Python. Mmh. C'est extrêmement drôle. Il a comme coéquipier un personnage qui veut se suicider, qui rate en permanence. Ça devrait vous plaire, ça.
Je vois pas ce que vous...
C'est-à-dire que son personnage, vraiment, ce personnage est hilarant. Il y a deux ou trois suicides ratés par épisode. Et puis, son dernier collègue est un ado déprimé qui ne sert à rien. C'est très, très drôle. Il y a des trolls qui apparaissent. C'est vraiment hilarant. Et Magnus est vraiment un personnage qui devrait vous inspirer. Magnus, l'adieu. Et Rami, trois personnages pour aller mieux en 2020.
Merci Renan pour toutes ces propositions. Et je vois que Manu Larsenet a même pris des notes.
Parce que c'est un bon élève, lui, il note.
Oui, il a un stylo surtout.
Et il aura une bonne note à la fin.
On approche de la fin de l'émission. Et c'est l'heure pour moi d'aller chercher le dernier vinyle. Allez, j'appelle mon ascenseur. Oula. Oh, c'est quoi ça? Oh, j'ai eu l'impression que c'est Larsen. Eh. Bon, allez, envoyez le disque. Little Village, The Action.
Yeah.
Et ça groupe ça, c'est Little Village dans Pop 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 sur France Inter, The Action. Et c'est extrait de l'album Little Village, justement. Voilà, merci Manu Larsenet. Le tome 1 de cette thérapie de groupe, L'Étoile qui danse, c'est édité chez Dargaud. Ça sort dans 3 jours et c'est indispensable. Comme tout ce que produit Manu Larsenet, je le dis exactement comme je le pense. Merci de nous avoir rendu visite. Merci Manu. Merci à l'équipe de Pop Pop Pop, Ghislain Bitou Fontanus à la réalisation, à la technique Clément Vuillier, Aurélien Esvan, notre rédacteur en chef, Simon Arestat et Mathias Volant, nos attachés de production, à la programmation musicale Djoubaka et Raphaël Harry, notre stagiaire. Demain, dans Pop Pop Pop, qui est le lauréat du prix BD Fnac France Inter, mais vous n'avez pas entendu son nom car il ne sera révélé que demain à 16h04 sur France Inter dans Pop Pop Pop. Et oui, c'est comme ça, c'est moi le parrain du prix. Mais avant demain, si vous avez aimé l'émission, retrouvez-la sur franceinter.fr. Si vous êtes un Jones 3.0 ou un Yeuve à la pointe, suivez-nous. Plutôt, comme disent ceux qui font des tutos, embrasse la bague sur YouTube. Abonnez-vous à notre podcast.
C'est quoi comme nationalité?
Une offre.
Ça, c'est une pizzeria.
Et une Regina pour la 7. Et suivez-nous sur les internets, comme disent les millennials, le 3615 Pop 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 sur Instagram et Twitter.